Ah, ça fait plaisir d'être là, hein, quand même. Hein. Mais je suis content, il y en a certains qui ont vécu le week-end, il y en a d'autres qui viennent, qui arrivent aujourd'hui. Et on est très content de vous avoir avec nous, vraiment. On est très content que vous embarquiez et on va ouvrir ensemble la parole de Dieu. Et j'aimerais vous raconter une histoire qui se passe autour, on est dimanche. Et j'aimerais vous raconter une histoire qui tourne autour de la Pâque. Alors, j'aimerais vous raconter l'histoire de ces femmes qui sont venus au tombeau ce fameux dimanche de Pâques. Et j'ai intitulé ce message ce matin « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant ?» Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Je prie que Seigneur ouvre notre entendement, que sa parole puisse descendre au plus profond de nos cœurs et qu'elle puisse descendre si profondément qu'elle nous donne des racines qui poussent profondément pour nous enraciner, que lorsque les tempêtes soufflent, lorsqu'on a des racines, l'arbre tient bon. Lorsque la tempête souffle et qu'on a peu de racines, l'arbre ne tient pas. Je prie que sa parole nous enracine en lui. Amen. Depuis le vendredi, les femmes et les disciples pleuraient. Ils pleuraient la mort de Jésus. Et le samedi arrive. Vous savez que le Shabbat, ça commence le vendredi soir à la tombée de la nuit. Lorsque le samedi arrive, c'était Shabbat, toutes les lois juives. Tu n'as pas le droit de marcher plus que tant, tu n'as pas le droit de bouger, tu n'as pas le droit de porter plus que ça. Tu n'as pas le droit, toutes sortes de contraintes qui faisaient qu'ils ne pouvaient même pas se rendre au tombeau. Et donc, la journée du samedi passe, elle a dû passer comme une année cette journée-là. À attendre, à se dire, il est parti, on voit le tombeau, on n'a pas eu le temps de s'occuper correctement de lui, il faudrait qu'on amène les aromates, il faut qu'on embaume son corps, il faut que... Et la journée passe, et les heures s'égrènent, ils n'avaient pas encore les montres suisses à ce moment-là, mais la course du soleil passait tellement lentement dans le ciel ce jour-là, mes amis, que ce samedi a dû être long, si long, et lorsque elle se couche le samedi soir, certainement le plus tôt possible, pour que la nuit soit courte et lorsque le jour se lève, le dimanche matin, elles se pressent alors, elles se lèvent, ces femmes, elles se pressent alors ensemble pour aller au tombeau. Et la Bible nous dit qu'elles s'en vont en pleurant. Elles s'en vont en pleurant, ces femmes-là. Et les disciples, eux, restent à la maison. Et ils pleurent à la maison. Ils pleurent la mort de Jésus. Ils pleurent son départ. Ils pleurent cette absence. Ils pleurent dans l'incompréhension de toutes ces choses qu'ils pensaient qu'elles allaient arriver et que finalement, il s'en va. Il nous laisse tout seuls comme ça. Qu'est-ce qu'on va faire? Comment on va s'en sortir? Qu'est-ce qui va se passer? Ils sont là, ils pleurent. Elles marchent en pleurant, en se dirigeant vers le tombeau avec les aromates qui sont là dans leurs mains pour aller embaumer le corps de Jésus. L'évangile de Marc, au chapitre 16, nous parle de ces choses. Et les disciples sont restés à la maison, ils pleurent et ces femmes s'inquiètent en route, elles parlent entre elles en se lamentant et elles parlent, discutent entre elles, elles se demandent comment elles vont faire pour rouler la pierre. Rappelle-toi cette pierre, on l'a vu rouler, elle est si lourde cette pierre, comment on va faire nous pauvres de nous, on va peut-être pas réussir à rouler cette pierre, comment on va s'y prendre? On voit tout ça dans l'évangile de Marc chapitre 7, elles se posent des questions en route, elles se lamentent, elles regardent aux circonstances, elles regardent aux choses humaines, normales, et normalement, comme quand on regarde aux choses humaines, eh ben, on voit les impossibilités, on voit les choses, on se dit comment on va s'en sortir, comment on va faire. Elles s'inquiètent et lorsqu'elles arrivent au tombeau, elles voient que la pierre est roulée. Surprise! La pierre est déjà roulée, wow! Et là, la Bible nous dit qu'il y a, Matthieu 28, nous dit qu'il y a un grand tremblement de terre qui prend place. Toute la ville est chamboulée, la terre se met à trembler. Et alors que la terre se met à trembler, elles entrent dans le tombeau, elles sont toutes chamboulées, tout est sans dessus dessous, la pierre est roulée déjà, elle n'est pas censée être roulée, comment ça se fait? Et là, la terre se met à trembler, elles rentrent dans le tombeau, elles voient que le tombeau est vide. Et elles sont confuses, elles ne savent pas quoi penser de tout ça, elles ne savent pas comment analyser tout ça sur le moment, sur la situation, elles sont complètement perdues. Et là, un ange leur apparaît et va leur dire ceci. On lit ça dans l'évangile de Luc au chapitre 24. Luc 24, verset 5. « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant ?» va leur dire cet ange. « Il n'est point ici. » Mais il est ressuscité. Souvenez-vous, il est fort ce mot, Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé. Vous devriez pas être, qu'est-ce qu'il est en train de leur dire? Vous devriez pas être dans l'étonnement. Il vous a parlé, il vous a dit ces choses, vous n'avez pas entendu ou quoi? Que vos oreilles n'ont pas entendu? Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé, vous avez dit ces choses lorsqu'il était encore en Galilée. Il disait, il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour. Et alors, elles se ressouvinrent. J'ai mis un mot aussi. C'est pas juste elles se souvinrent, elles se ressouvinrent. Mais ça c'est nous mes amis. On a si souvent besoin de se rappeler, de se faire rappeler les choses. J'aimerais vous dire, je ne suis pas certain, pour la plupart d'entre vous qui avez participé à ce week-end, je ne suis pas certain de vous avoir appris beaucoup de choses dans les messages que je vous ai apportés. Vous avez déjà entendu plein de choses. Vous avez entendu déjà l'évangile de nombreuses fois prêché. Mais on a si souvent besoin de se ressouvenir encore, de se faire rappeler la parole de Dieu. Pourquoi ? Parce que notre nature humaine a si souvent tendance à glisser vers la pensée de ce monde dans lequel nous baignons en permanence. On a besoin ensemble de se tenir. On a besoin ensemble de se rappeler. On a besoin ensemble. C'est pour ça que l'Église est si précieuse. L'épouse est si importante. C'est pour ça qu'on ne veut pas se passer de l'épouse. Elle est si importante. Bien sûr, dans nos vies personnelles, on a besoin de développer une relation intime et personnelle avec Dieu dans notre quotidien et d'y travailler, de se battre contre vents et marées pour maintenir cela dans notre vie personnelle au quotidien. Ça, ce n'est pas l'Église qui va le faire, ça. Mais nous avons tellement besoin aussi de nous retrouver entre nous. C'est le mystère, mes amis. L'apôtre Paul dira que c'est un mystère. C'est pour ça qu'il dira « supportez-vous les uns les autres ». L'apôtre Paul, tu vois, il m'a dit « supportez-vous les uns les autres ». Hein ? Il avait tout compris, l'apôtre Paul, parce que quand on est ensemble, des fois, on a besoin de se supporter. Hein ? Des fois, il y en a, on se tape sur les nerfs un peu. Hein ? On se supporte. Mais c'est parce que c'est l'amour de Dieu qui tisse des liens entre nous, mes amis. C'est l'amour de Dieu qui surpasse tout. Qui est là, qui tisse ces liens d'amour entre nous, mes amis, et qui fait que lorsque le monde regarde à nous, Philippe l'a cité tout à l'heure, le regard à nous, c'est à l'amour que vous portez les uns pour les autres, que le monde verra que vous êtes mes disciples. Alléluia. Mes amis, nous avons besoin de fixer nos regards sur Jésus. Ces femmes, elles étaient là, elles regardaient, elles étaient dans la confusion, elles regardaient aux circonstances alentour, elles étaient confuses, elles étaient dans un chamoulement. La Bible nous dit qu'elles vont, et la Bible nous dit qu'après cela, elles vont raconter aux disciples qui étaient restés, eux, à la maison, à se lamenter, à pleurer, tellement découragés qu'ils n'ont même pas le courage de les accompagner ce matin-là. Bon, allez-y, si vous voulez, allez-y, nous, on a perdu tout espoir. Et là, elles reviennent. Après avoir entendu l'ange et de cette elles se sont ressouvenues. Bizarre à dire, hein. Elles se ressouvinrent. C'est du truc de conjugaison, grammaire et tout. J'ai jamais été très bon là-dedans. Mais. La langue française est compliquée. Et elles rentrent ce jour-là. Et il y a quelque chose qui s'est passé. Elle retourne raconter aux disciples qui étaient restés là à se lamenter. Et regardez ce qu'il est dit, Matthieu 28, verset 8. Elles quittèrent le tombeau en hâte. Il y a un truc qui s'est passé, il y a un déblocage qui s'est passé. Elles retournent en hâte, tout effrayées, parce qu'elles sont encore impressionnées par ce qui s'est passé. C'est pas rien, mes amis. La pierre était roulée, je ne sais pas comment. Le tremblement de terre, le tombeau est vide. Un ange leur apparaît. Tu as souvent eu un ange qui t'est apparu, c'est pas souvent qu'on arrive. Donc c'est normal qu'elles sont un peu encore dans le wouh. Elles sont un peu effrayées, mais en même temps, elles ont hâte. En même temps, remplies d'une grande joie, nous dit Matthieu 28, 8. En même temps, remplies d'une grande joie, elles courent apporter la nouvelle aux disciples. Elles sont arrivées en traînant les pieds, en se lamentant. Comment on va faire ? Comment on va faire ? Et elles partent en courant, en hâte, remplies de joie encore toutes. Waouh ! C'est fou ce qui nous est arrivé, incroyable, il faut qu'on leur raconte. Mes amis, on pourrait raconter des heures et des heures, tout plein de choses à propos de ce récit qui est si riche et si central dans notre foi aujourd'hui. Mais ce qui m'a frappé en méditant ce texte et en préparant ce message pour ce matin, c'est le changement radical qui a été opéré dans la vie de ces femmes entre le moment où elles s'approchent du tombeau, découragées, les yeux fixés sur les impossibilités, très soucieuses, accablées, et ce moment où quelques Quelques minutes plus tard, elle retourne vers les disciples en hâte, remplie d'une grande joie. Quel changement radical! Pam, boum! La crêpe dans la poêle, flac, bam! Plus rien à voir, mes amis. Un changement radical. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'elle passe si rapidement de la tristesse, la confusion, à une joie indicible à l'intérieur de leur vie? Mes amis, il y a une leçon extraordinaire pour nous ce matin. Il y a une leçon extraordinaire pour nous ce matin à retirer de ce que l'ange a dit à ces femmes ce jour-là. Quelque chose qui va générer un déclic dans leur vie, un déclic spirituel dans leur vie. Je prie qu'il y ait un déclic spirituel dans ta vie. Je prie qu'il y ait un déclic spirituel dans nos vies. Je prie que ce déclic engendre de la joie au-delà des circonstances dans nos vies, de la joie malgré la situation complexe dans le monde dans lequel nous baignons aujourd'hui, avec tous les prix chers, l'inflation, de dire comment on va faire, comment on va s'en sortir, comment, etc. Un déclic spirituel où, au-delà toutes ces choses-là, on marche sur l'eau, qu'on puisse rester dans la joie, qu'on marche au-delà des circonstances, rempli du Saint-Esprit, un déclic spirituel qui s'est passé dans la vie de ces femmes. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Alléluia. Ces femmes ont dû se dire, mais qu'est-ce qu'il nous raconte cet ange-là? Je ne sais pas jusqu'à quel point elles ont capté tout de suite que c'était un ange, mais qu'est-ce qu'il nous raconte lui? D'où tu sors? D'où il vient, lui? Qu'est-ce qu'il nous raconte? Il y a 2 jours en arrière. Je vais t'expliquer. Il y a 2 jours en arrière, nous, on était là à Golgotha. Là. Nous, on y était devant la croix. On l'a vu, Jésus, mourir sur la croix. On a vu, là, ses mains avec des clous de ses pieds. On l'a vu mourir sur la croix. On l'a entendu crier un grand cri. Eli, lama sabachthani. Il a crié un grand cri. Seigneur, Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné? Et puis, là, il a rendu l'esprit. On l'a vu donner son dernier souffle. On a vu le soldat romain arriver avec sa lance, planter la lance dans son côté et puis sortir du sang avec de l'eau. On a vu ces choses-là. J'étais là, qu'est-ce que tu nous racontes? Qu'est-ce que tu racontes? Si chercher parmi les morts celui qui est vivant, qu'est-ce que tu nous racontes? On a vu plus loin que ça, mes amis. On l'a vu même à la fin de la journée ce vendredi. On a vu Joseph d'Arimathée avec Nicodème. On les a vus venir décrocher le corps de Jésus de la croix. Ils venaient d'aller négocier vers Ponce Pilate s'ils pouvaient aller prendre le corps. On l'a vu décrocher le corps de Jésus de la croix. On l'a vu l'emporter. On les a suivis. On les a suivis jusqu'à ce tombeau creusé dans la roche. On les a vus le maître dans ce tombeau, on a vu la pierre qui était roulée, à tel point qu'on l'a tellement bien vu rouler que quand on est venu ce matin, on se demandait comment on allait l'ouvrir. On a vu toutes ces choses-là. Toi, tu nous dis, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Mais tu es en train de nous dire qu'on cherche au mauvais endroit, mais qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu nous racontes? J'aimerais vous dire ce matin qu'il y a 2 catégories de personnes qui ressortent de ce récit, des femmes qui vont. Il y a premièrement, écoute bien ceci, il y a premièrement ceux qui regardent à ce qui est mort. Il y a ceux qui regardent ce qui est mort, à ce qui ne peut pas apporter la vie. Ce n'est pas le bon endroit, ça, à regarder. Mais c'est là qu'on regarde si souvent. C'est là qu'on regarde trop souvent. Parce que c'est le regard humain. C'est le regard de la chair. C'est le regard horizontal où on regarde les choses terrestres, où on regarde aux circonstances, où on regarde aux limites d'ici-bas, où on regarde aux impossibilités humaines. Ça, c'est le regard cartésien. C'est le regard qui résonne, c'est la logique humaine, c'est le calcul humain. Et c'est vrai, on vit dans ce monde ici-bas. La loi de la gravité est ici, hein. Si je passe à côté du vase de tante Hortense qu'elle m'a légué et que je mets un petit coup de coude dedans qui fait « kling, 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 kling », il va faire quoi? Crac. C'était boum, c'était le début. Après, crac. Kikling, chikling, chikling partout. C'est la loi de la gravité. On est ici-bas. On est régi par ces choses-là. C'est vrai. C'est normal. C'est OK. C'est la logique humaine. C'est le calcul humain. Mais ça ne veut pas dire que c'est mauvais. Ces choses. On est régi par ces limites-là aussi. Lorsque nous sommes sur cette terre, c'est les lois qui régissent ce monde. C'est naturel de raisonner de la sorte. Mais Jésus lui-même dira, lorsque tu construis une tour, Calcule ce que va te coûter. Calcule comment tu vas la construire avant de te lancer dans les travaux. Luc 14. Il y a une logique à ça. Jésus lui-même le reconnaît. Et c'est OK. Mais en même temps, ça ne tient pas compte du miraculeux. OK ? C'est le paradoxe de nos vies. Mais Jésus nous a montré l'exemple. Il a pris la forme d'un homme. Il est rentré dans un corps. Il a choisi de se limiter lui-même comme nous, dans un corps. Parfaitement homme, parfaitement Dieu, évidemment. Mais il a choisi de se limiter dans ce corps-là. C'est ce paradoxe humain où on est là, ici-bas, régi par ces choses-là, ces limites humaines. Et en même temps, nous sommes sous cette nouvelle alliance. Nous avons accepté de rentrer dans cette nouvelle vie où Jésus vient habiter en nous. Il y a un monde spirituel qui prend place, que nous ne voyons pas de nos yeux, mais qui est bel et bien vivant, qui est bel et bien là, auquel nous sommes appelés à participer et qui engendre des choses qui ne font pas partie de la loi des lois de ce monde, la loi de la gravité de ce monde. Lorsqu'on regarde juste avec un regard humain, on ne tient pas compte du miraculeux, de ce qui ne s'explique pas par des équations logiques et calculées. Si souvent, Dieu m'a demandé de faire des choses, je dis, Seigneur, pas de sens, je retourne deuxième fois au Canada, quoi ? Ça n'a aucun sens, Seigneur. Jésus lui-même, avec cet homme qui était sourd et qui était muet, les doigts dans les oreilles, la salive sur sa langue. J'ai pensé à ça. Ça paraît pas logique. Mais c'est extraordinaire. Réfléchissez à ça 2 secondes. Comment veux-tu faire comprendre à un sourd et à un muet ce que tu vas lui faire, que tu veux le guérir, si tu ne peux pas lui parler parce qu'il ne t'entend pas? Ah, écoute bien, regarde bien ça. Jésus arrive devant cet homme. Il est sourd, il est muet. Je ne peux pas lui expliquer avec mes mots. Qu'est-ce que je vais lui faire? Je veux qu'il comprenne que je vais le guérir. Alors qu'est-ce que je fais? Je lui touche les oreilles pour lui faire comprendre que je vais te guérir là. Ok. Ta langue, il fait ça, Jésus. Ta langue. C'est pour ça qu'il y a de la salive qui vient sur sa langue. Ta langue, je vais te la guérir. Et qu'est-ce qu'il dit? Ce jour-là, il dit Ephphatha. Ephphatha, celle-ci, très bien sur les lèvres. Ephphatha. Alléluia! Nous, on dit, c'est fou! Qu'est-ce qu'il fait, ses doigts dans les oreilles, sa salive sur la... N'importe quoi! Jésus est en train de signer. Il fait le langage des signes, mon frère, ma sœur. Ce qui te paraît illogique à ta pensée humaine, Jésus sait ce qu'il fait. Jésus sait ce qu'il fait, c'est pas extraordinaire? Un sourd à muet, Jésus signe avec lui. Il parle sa langue à lui, mon frère, ma sœur. Alléluia! Ce qui nous paraît illogique aux yeux humains, à la pensée humaine. Dieu a toujours un plan. Ça vaut tellement la peine de le suivre. Ça vaut tellement la peine de garder les yeux fixés sur lui, de lui obéir, de marcher à sa suite, mes amis. Tellement ça vaut la peine. Alléluia. Quelqu'un dit amen. Vous êtes avec moi? Alléluia. C'est bon, hein? C'est bon, la parole de Dieu. C'est magnifique, c'est extraordinaire. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Le texte nous dit que ces femmes étaient tristes, qu'elles pleuraient, qu'elles étaient dans leur confusion. Et pourquoi est-ce qu'elles étaient tristes? Parce qu'elles avaient ce regard humain. Elles avaient fixé les yeux sur ce qui était horizontal, logique, explicable, déductible. On l'a vu donner son dernier souffle sur la croix. On a vu son corps être mis au tombeau. Ça, c'est logique. Ça, c'est quelque chose que je peux comprendre, que je peux mesurer, que je peux expliquer. Alors, il ne peut pas être vivant. C'est pas possible. C'est pas logique. C'est impossible. Et elles posent des regards alors sur ce qui ne peut pas porter la vie. Elles sont en train de poser leur regard sur ce qui est mort. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts? Il ne pouvait pas dire autre chose de plus précis, cet ange-là, de plus chirurgical, sur ce qu'elles avaient besoin d'entendre à ce moment-là, ces femmes. Mes amis, si souvent on cherche au mauvais endroit, on ne cherche pas au bon endroit, on s'attarde, on se laisse envahir par des choses qui ne peuvent pas porter la vie. On se laisse envahir par des soucis, par des choses. Elle dit, mais lui, il m'a dit ça, elle m'a dit ceci. Comment mes enfants, comment ils vont... Non, là, ils sont en train de prendre une mauvaise décision. Et là, ils n'auraient peut-être pas dû accepter ce job. Non, pourquoi il s'en va là? Pourquoi il... Et on y va avec nos logiques humaines. On porte nos yeux sur ce qui ne peut pas porter la vie. On s'attache à des choses stériles. Et j'aimerais vous dire ceci, mes amis. Il y a un danger d'endormissement quand on ne porte pas nos regards au bon endroit. Un endormissement spirituel, de voir notre vie spirituelle s'éteindre tranquillement, pas vite, mais progressivement, pour finir par mourir lorsqu'on fixe nos yeux sur ce qui est mort. Nous-mêmes, on se met à mourir, à s'éteindre progressivement. L'être humain, mes amis, est si prompt à chercher, à investir, à se fixer sur des choses qui ne portent pas la vie. Vrai ou pas vrai? J'ai raison. Je le savais que j'avais raison. C'est comme on est, c'est notre nature humaine. On peut avoir des tempéraments différents, on peut avoir des cultures différentes, on peut venir d'endroits différents, on peut avoir eu des situations familiales dans lesquelles on a évolué différentes, mais ça ne change pas. On a tous la même chair qui nous porte à ces choses-là, mes amis. On a besoin de s'entretenir en chant ensemble de la vérité de la parole de Dieu pour rester caché au milieu du flot de ce monde qui va à l'encontre de ces valeurs-là, de rester caché dans ces principes bibliques du royaume de Dieu si primordial, si important pour tenir au milieu des tempêtes de ce monde, mes amis. Et regarder au mauvais endroit engendre des choses dans nos vies. Ça engendre des choses dans nos vies. Lorsqu'on a les yeux sur des mauvaises choses, ça remplit nos pensées, ça engendre, ça produit, ça développe des choses dans nos vies. Parlez de ça ce week-end, mes amis. Le nombre d'heures qu'on passe par jour sur les réseaux sociaux, sur les écrans, en moyenne 4 heures, ça engendre des choses dans ta vie. Ça engendre des choses dans ta vie. Regardez, on va se dire les vraies choses. On se dit la vérité, on est en famille, ça va. Regarde des séries, c'est tellement populaire sur Netflix aujourd'hui. Tu rentres du travail, tu es fatigué, tu es harassé, tu es parfois irrité, des situations compliquées, de la pression au travail, de devoir produire toujours plus, de relations avec les collègues, de voir certains qui marchent sur les autres pour monter plus haut, qui mentent, etc., qui parlent dans le dos des autres. Tu rentres à la maison d'une journée comme ça, tu as juste envie de te détendre. Rien de mal, tu as juste envie de penser à autre chose. Clique, scroll, et puis tu te mets à regarder des trucs, puis tout à coup tu te réveilles 4 heures plus tard, puis déjà. Déjà, 4 heures galvaudées. Ok, ça. Mais qu'est-ce que tu as fait même pendant ces 4 heures? Une petite série Netflix. La saison 8, la saison 14, la saison 12. Faut que je regarde la prochaine saison. Là. Ils ont réussi à arrêter la dernière saison en me mettant l'eau à la bouche. Faut que je regarde la suite. Je peux pas. Tu regardes ces choses-là, puis il y a de la violence, il y a du sang, il y a du sexe. Il y a du sexe suggestif. Tu vois des choses. Aujourd'hui, cache plus. Hein. À l'époque encore, tu avais du nu un peu de temps en temps, puis on disait « Ouh, je ferme les yeux. » Puis aujourd'hui, c'est devenu banal et populaire. Sais-tu quoi? Je vais te dire, je ferme mes yeux encore. Je ferme mes yeux encore, moi. Je zappe, j'éteins. J'ai la télé chez moi à la maison. Je sélectionne ce que je regarde. Je ne vais plus me faire voler. C'est terminé de me faire voler. Il y a des choses que je vois, puis il y a des choses que je choisis de ne plus regarder. Parce que lorsque tu poses tes yeux sur des choses, ça a une influence sur ta vie. Lorsque tu poses tes yeux sur quelque chose, ça nourrit, il y a quelque chose qui se nourrit à l'intérieur de toi. Et il y a quelque chose en même temps qui tranquillement, pas vite, mais progressivement, commence à s'éteindre tranquillement. Et petit à petit, en parallèle, tu ne te rends pas compte parce que c'est subtil, ça prend un peu de temps. Mais finalement, en parallèle, tu commences à avoir un désintérêt des choses de Dieu qui commencent à s'installer dans ta vie. Tu commences à avoir un désintérêt de prier, à commencer à te dire, mais à quoi bon finalement? Pourquoi? Pourquoi mettre à genoux? Souvent, je ne l'entends même pas. Souvent, j'ai même l'impression que des fois, il ne répond même pas vraiment à mes prières. Puis, tranquillement, l'engrenage commence à prendre. Et puis, tranquillement, pas vite, mais progressivement, tu te retrouves à avoir des trucs qui s'éteignent dans ta vie. Tu te retrouves à avoir des choses qui meurent à l'intérieur de ta vie. Puis un jour, tu te réveilles et puis tu n'as plus envie de Dieu. Tu te demandes pourquoi ça vaut encore la peine d'aller à l'église, pourquoi ça vaut encore la peine de croire, pourquoi encore... Tu te poses la question de ces choses-là, mes amis. Il y a un enjeu, on ne rigole pas, nous sommes dans les temps de la fin, Jésus revient bientôt, mes amis. Nous sommes appelés à nous tenir comme des flambeaux de l'évangile. Nous sommes appelés à nous tenir dans les valeurs du royaume de Dieu aussi, mes amis. Mes amis, aussi véritablement, regardez, au mauvais endroit, ça engendre des choses dans nos vies. C'est pour ça que Jésus dira, par exemple, moi je vous dis, quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. C'est quand même chaud, hein ? J'ai envie de te dire, n'aie pas peur. Ça fait un peu peur, ça, quand même. Mais ça nous parle de ça, mes amis. Où est-ce qu'on pose nos yeux ? On continue à se parler dans la vérité. Je vais me dire à tout le monde, mais aux hommes en particulier. Je vais me dire, le premier regard, c'est un premier regard. C'est le deuxième regard qui est problématique. Aujourd'hui, il fait beau, c'est la canicule, il fait chaud. Tu croises dans la rue régulièrement des femmes qui ont des tenues suggestives. Mais ça va dans le sens inverse aussi. Des hommes aujourd'hui, j'entends des femmes qui disent « Oh, il est beau, il est musclé, il est pectoraux. Oui. » On ne peut pas s'empêcher d'avoir un premier regard. On ne va pas commencer à se crever les yeux ou à fermer nos yeux marchant dans la rue. Et... Oh, Seigneur, si jamais je pose mon regard sur une femme, c'est comme si j'avais fait adultère. Seigneur, oh là là, je préfère fermer mes yeux. Non, c'est le deuxième regard. Le deuxième regard, c'est quand tu te retournes après derrière, parce que tu as vu un premier truc, puis tu dis « Ah, j'aimerais revoir un peu plus. » On se parle des vraies choses, on est en famille, mes amis. Veille sur tes yeux, parce que c'est la porte d'entrée. Ça enclenche les choses. On a à veiller sur nous-mêmes, mes amis. On a accepté Jésus dans nos vies, on a une responsabilité de se tenir. Nous sommes le temple du Saint-Esprit, tu ne peux pas cohabiter avec toutes sortes d'autres choses. Je vous le dis, mes amis, je veille sur mon regard. Je discipline mon regard. À la maison, on regarde de temps en temps la télé. Mais il y a des fois, même dans les publicités, c'est un truc de fou. Pour des parfums, mais tu dirais qu'ils couchent ensemble comme ça devant toi pour une publicité d'un parfum. On voit les mêmes choses, on se parle de la vérité, on dit les mêmes... On est d'accord, hein, je ne vous choque pas. Mon objectif, c'est pas... On se parle de vraies choses qu'on voit tous les jours. Moi, j'éteins. Ah non, je veux pas salir mon être intérieur avec ces choses-là. Parce que Mathieu, t'es un peu ringard quand même, on vit dans ce monde. Ça m'est égal. Je veux tenir ma vie devant Dieu, dans la sainteté. Je veux grandir dans la sainteté dans ma vie. Et c'est ça qui fera la différence, c'est des choses concrètes. Ce n'est pas de proclamer des versets à longueur de journée, ce n'est pas d'écouter de la louange en boucle chez toi à la maison, même si c'est ce genre-là. Pourquoi pas ? Mais c'est les choix des valeurs qu'on aura pris dans nos vies concrètes, au quotidien, qui vont faire qu'on va se mettre à briller ou pas, mes amis. C'est ça. C'est les choix de vie, de valeurs, au quotidien, dans ton travail, avec tes voisins, dans ta famille, dans le milieu dans lequel tu baignes au quotidien. Est-ce qu'on est les mêmes quand on va à l'église le dimanche matin que quand on se retrouve seul avec nos collègues de travail? Est-ce qu'on est les mêmes? Est-ce que les valeurs du royaume de Dieu sont assez ancrées en nous pour qu'on les embarque dans tous les détails de notre quotidien? C'est ça que je veux. C'est ça que je soupire, que je crie à Dieu pour toi, que nous prions en criant à Dieu, les équipes pastorales de nos églises, pour que chacun d'entre nous, on se garde ensemble. C'est pour ça qu'on prêche le dimanche, on prêche la vérité, on se dit ces choses-là, on apporte ces messages-là, qu'on a besoin de s'entretenir ensemble de ces choses-là, parce que nous baignons dans ce monde-là. Et on n'est pas des ermites à dire, des fois quand on entend ça, on a dit « je me retire, okay, c'est trop dur, je me retire d'une petite grotte quelque part, là, juste moi et Seigneur ». Je mange 2-3 graines et puis on reste là. C'est bien, je ne suis pas confronté au monde, je ne suis pas confronté à tout ça, je n'ai plus de télécommande, je n'ai plus de problème de scroll, je n'ai plus tout ça, ce serait parfait. Mais non, Dieu a dit non, vous n'êtes pas du monde, mais je vous ai placé dans ce monde. Vous êtes là au milieu de ce monde pervers et corrompu et je vous appelle à briller comme des flambeaux. Pour pouvoir briller, on a besoin que ces valeurs-là nous habitent, alléluia. Amen. Ça va, je suis à fond. Comment ça j'ai dit ? Lorsque je perds mon travail, que mes enfants ne suivent pas le Seigneur, que quelqu'un m'a blessé, des choses qui nous arrivent, qui peuvent nous arriver, que des circonstances que je vis ne sont pas ce que j'avais prévu dans le plan de ma vie. Hein ? Parce que si chacun d'entre nous, on se posait la question sur « C'était quoi le plan de match que tu avais prévu quand tu avais 18-20 ans ?» Hein ? Le plan là. C'était un plan, moi j'avais prévu un plan. Le plan génial. Les études, le succès, le machin, l'abondance. Hein, chacun d'entre nous, personne ne se disait « Alors moi, ça ne va pas marcher ma vie, tu vas voir comment. » Je vais me ramasser. Hein ? Tu vas essayer. Hein ? Non, tout le monde, on aspire, on se dit, mais. Hein ? Et on sait que la vie est faite de surprises, de choses qui nous arrivent dessus qu'on n'avait pas prévues, de choses qui nous tombent dessus qu'on n'avait pas prévues. La vie est faite de ces choses où, dans ces moments-là, où est-ce que je pose mon regard ? Sur quoi est-ce que je mets mon attention ? Dans quoi est-ce que j'investis mon énergie dans ces moments-là ? Est-ce que je... Il y a toutes sortes de pistes possibles, hein, suivant ton tempérament, suivant ton arrière-plan, suivant plein de choses. Il y a plein de pistes. Est-ce que je vais me complaire dans la victimisation ? Certains, c'est ça. La victimisation. Me plaindre en permanence. Surtout n'importe quoi. Il y a tellement de sujets de se plaindre ici-bas sur cette terre, mais je te le dis. Hein. Moi, là, maintenant, je pourrais te faire une liste. 3 heures de temps, je parle non-stop de tous les sujets dans ma vie où je pourrais dire n'importe quoi, ça. Oh. C'est galère, c'est dur, c'est saoulant, j'en peux plus, ras-le-bol, j'en ai marre. Hein ? Et c'est tout le temps la faute des autres, c'est jamais la mienne en plus. Hein. Si les gens suivaient mes directives, là, ça irait tout bien. Là. Sur quoi est-ce que je mets mon attention, mon énergie, quand les choses ne vont pas comme je veux ? Se révolter, c'est peut-être une autre piste, se révolter face à l'injustice, marcher à la colère, face aux blessures subies. Et on se met en colère pour tout. Dès qu'il y a un truc qui ne va pas, c'est une petite étincelle, ça met le feu au poumon, boum, ça explose. Et ça rejaillit sur ton entourage, ça rejaillit sur tes proches, ça rejaillit sur ta famille, ça coule aussi sur les autres. Tout le monde, on subit les conséquences, on devient des victimes collatérales. Sur quoi est-ce que je mets mon attention, mon énergie quand je traverse des choses qui ne vont pas comme j'avais imaginé ? C'est frustrant. Des fois, c'est la colère qui monte face à la frustration. Ou alors, peut-être, me laisser happer par la longue complainte de la dépression. C'est aussi une piste, celle-là, pour certains. Face à toutes les injustices vécues, se mettre à sombrer doucement. Tout doucement, on dit que c'est la maladie de ce siècle. C'est pas là-dessus qu'il faut que tu mettes tes regards. Ça n'est pas une solution. Peut-être encore une autre piste ? Les craintes et les angoisses, les anxiétés. Ça vous dit quelque chose, ça ? Les anxiétés. Les angoisses qui se mettent à me diriger face à ma situation difficile, face à l'avenir incertain, face à mes enfants qui ne sont pas au Seigneur. Et ça nous ronge de l'intérieur. Ce n'est pas là-dessus que Dieu aimerait que tu poses tes regards. Et ça nous prend une énergie folle. Lorsqu'on pose nos regards et qu'on va sur ces chemins-là. C'est une énergie folle, mes amis. C'est une énergie incroyable qui est dépensée pour être en colère. Une énergie folle. C'est une énergie folle d'être dans la peur, dans la crainte, dans les anxiétés, dans les angoisses. C'est une énergie folle d'être dans la critique. Tout le temps besoin de dire du mal de l'autre, en permanence. Il y a quelque chose à l'intérieur de toi qui te donne l'impression que quand tu dis du mal de l'autre, alors toi qui étais si souvent rabaissé, tout à coup tu te sens un peu supérieur parce que tu dis du mal de l'autre, tu te mets au-dessus comme ça. Mais c'est une énergie folle en permanence. T'es tout le temps en train de scanner les gens, tu dis qu'est-ce que je pourrais dire du mal de lui. C'est un truc inconscient, c'est quelque chose qui est là, mais qui gangrène nos vies, qui gangrène l'église, mes amis, qui gangrène trop d'églises aujourd'hui, mes amis. Ça divise, c'est des graines de division qui ne sont pas selon la volonté de Dieu, qui ne sont pas selon le cœur de Dieu. Avez-vous remarqué que, en plus, on ne trouve jamais du repos dans ces choses-là ? Jamais on trouve du repos quand on part sur ces pistes-là. Jamais. C'est que tourment, lourdeur, poids, et on tourne en rond là-dedans. On s'épuise moralement, spirituellement, physiquement, tourne en rond. Et ça rejaillit sur nous, ça rejaillit autour de nous. Et les femmes et les disciples tournaient en rond. Depuis plusieurs jours après la mort de Jésus, ils se lamentaient. Ils se lamentaient, ils se victimisaient, ils pleuraient et ils s'influençaient les uns les autres là-dedans. Il n'y en a pas une alors qui marchait vers le tombeau qui disait « Oh, on arrêtez les filles maintenant, la foi là. Hein » Pas une. C'est tout. Ouais, t'as raison, c'est vrai. Puis moi aussi, je trouve que... Puis hop, elle disait son argument, puis hop, ça plombe encore un peu plus. L'autre, elle dit « Ah oui, j'avais oublié de te dire. En fait, moi aussi, je pensais ça cette nuit, j'arrivais pas à dormir. » Puis tout le monde a la tête sous l'eau. Parce qu'ils avaient les yeux fixés sur ce qui est mort. Au lieu de se rappeler ce que Jésus leur avait déjà dit. On est souvent oublieux, mes amis. On est si souvent oublieux de la parole de Dieu. C'est pour ça qu'on a besoin de s'entretenir de ces choses. On a besoin d'en parler ensemble. On a besoin d'avoir des groupes de maison la semaine pour parler de ces choses-là, pour s'entretenir de ces choses-là ensemble. On ne peut pas et on ne peut plus, on ne pourra plus, mes frères et sœurs, s'embarrasser de ces choses dans les temps qui sont là devant nous. Ça nous fait perdre notre temps. Ça nous fait perdre notre énergie. Ça nous fait perdre cette énergie qu'on pourrait mettre ailleurs pour le royaume de Dieu, pour l'avancement du royaume de Dieu, de l'Église, de son épouse. Et l'ennemi se rit de cela, mes amis. L'ennemi se réjouit de ces choses-là parce qu'on n'est pas efficace quand on est là-dedans. On n'est pas efficace quand on est là-dedans. En faisant perdre trop de temps à tant de chrétiens, l'ennemi se rit de cela. Les chrétiens qui tournent en rond dans leur vie spirituelle stérile, au milieu de conflits, au milieu de colère, de plaintes, de divisions, de craintes, de toutes sortes. Et on ne comprend pas pourquoi ils ne comprennent pas pourquoi leur vie est stérile. Ah bon, ça n'arrive pas ici en Suisse romande. Ne vous inquiétez pas, ça n'arrive pas, ce genre de choses. Mais parce qu'on n'a pas le regard au bon endroit. Mes amis, Dieu désire œuvrer à travers nous puissamment aujourd'hui et dans les temps qui viennent. Dans le canton de Vaud, dans le canton du Valais, en Suisse romande, en France, il désire qu'on n'a pas de temps à perdre, mes amis. On n'a pas de temps à perdre avec ces choses-là, mes amis. L'ennemi se rit, ça dilapide le temps que Dieu nous a alloué de notre si court passage sur cette terre avec le temps qui passe si vite pour pouvoir être efficace pour le royaume de Dieu, pour que ça puisse peser dans cette Suisse romande et que de nombreuses personnes puissent venir à la connaissance de Jésus. Christ, de son sacrifice à la croix, au salut en Jésus, à travers ta vie. Tu n'as pas de temps à perdre, nous n'avons pas de temps à perdre, mes amis, les temps sont comptés. Lorsqu'on tourne en rond dans ces choses qui ne portent pas la vie, c'est comme si on laissait pas à Dieu la possibilité d'agir en nous, de nous transformer, nous faire voir les choses avec ses yeux à lui, pour rentrer pleinement enfin dans son appel sur chacune de nos vies. On ne cherche pas au bon endroit, on n'amasse pas le bon trésor. Je l'ai lu hier, je le relis. Matthieu 6, Jésus, au début de son ministère, dans son sermon sur la montagne, dira comme un avertissement, Matthieu 6, 19, « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent, où les voleurs percent des robes, mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Place son trésor au bon endroit. J'espère que vous êtes avec moi, mais on ne veut pas être des chrétiens qui posent le regard sur des choses qui sont mortes. Ça suffit. Ça suffit. Des choses qui ne mènent pas à la vie, ça suffit. Nous ne serons pas des chrétiens, nous ne serons pas des églises qui recherchent, qui perdent leur temps, des choses stériles. Et s'il y a besoin de demander pardon, s'il y a besoin de... On va le faire parce que ça suffit de perdre notre temps, de faire le jeu de l'ennemi. Ça suffit. Le mot mort ici, lorsque l'ange dit à ces femmes, ne recherchez pas parmi les morts, dans le grec, c'est le mot nécros. Nécros dans le grec, d'où on a tiré nécrose, nécrologie, etc. Ça veut dire, ça parle d'une mort physique, mais ça peut aussi parler d'une mort spirituelle, de quelque chose qui s'éteint spirituellement. Il y a comme quelque chose qui s'amenuise et qui est en train de s'étouffer et qui s'éteint spirituellement, quelque chose qui ne fonctionne plus. On fait des choses, mais il n'y a plus la joie qui va avec. Il y a quelque chose qui ne fonctionne plus, il n'y a plus ce contentement qui va avec. On croit en Dieu, on va à l'église, mais il y a comme un vide à l'intérieur de nous, quelque chose qui s'éteint, quelque chose qui meurt, nécrose. Et tu en viens parfois même à penser que cette vie avec Dieu n'en vaut plus vraiment la peine. Parce que tranquillement, quelque chose s'est éteint. De prier, ça vaut plus vraiment le coup. Comme une confusion qui prend place, comme ces femmes qui étaient confuses. Parce que tu regardes au mauvais endroit, parce que tu n'investis pas au bon endroit. Et tu te dis, alors à quoi bon ? Mes amis, il y a un grand constat qui a pris place. Parmi la population française, en particulier ici, je n'étais pas en Suisse pendant cette période-là, mais pendant la pandémie de Covid. Et en France, comme vous le savez certainement, il y a eu des restrictions très drastiques, des confinements drastiques qui n'ont pas eu lieu à ce point-là en Suisse, mais il y en a eu d'autres. Hein. Philippe, tu me disais hier que vous n'aviez pas le droit de chanter dans les églises, carrément, quoi. Donc tout c'était paradoxal, on était enfermés chez nous, mais en même temps, quand ça commence à se rouvrir un peu, on pouvait aller à l'église, on pouvait chanter, pas de souci. Mais ici, tu pouvais être... Voilà, deux mois sans chanter. Ça n'empêche pas le Saint-Esprit de souffler. Mais c'est particulier. Et il y a tellement de personnes, et en particulier en France et dans la région parisienne, en particulier à Paris, qui ont ouvert les yeux sur un constat qui les a chamboulés. Tout à coup, au milieu de cette vie, cette espèce de frénésie folle de nos journées, métro, boulot, dodo, où on ne se pose pas de questions, on fonce tête baissée dans notre quotidien, puis les semaines se succèdent les unes après les autres, comme ça, de folie, et comme si tout à coup, tout s'arrête, et tout à coup, il y a comme un constat de « il y a quelque chose qui ne joue pas dans ma vie ». Il y a un truc à l'intérieur, il y a une espèce de contentement qui n'est plus là. Il y a quelque chose qui ne va pas dans cette vie-là. À quoi rime cette vie ? À quoi bon ? À force d'être le nez dans le guidon, mettre au boulot dodo, il y a quelque chose, un constat qui a pris place, c'est le fait d'être forcé de s'arrêter complètement. Impossible de faire plus qu'un kilomètre autour de chez toi. Incroyable en France. Et d'être forcé à s'arrêter. Et tout à coup, ce constat a fait est remonté dans la vie des Français, des Parisiens, de cette folie, de cette vie qui mène à quoi finalement ? Qui mène à quoi ? Un jour, je me réveille, je suis vieux, puis qu'est-ce qui s'est passé ? À quoi ça a servi tout ça ? Et il y a eu presque une forme à un moment donné de sortir, une espèce de forme d'exode rural dans l'autre sens, quoi. Une espèce des citadins qui n'aspiraient plus qu'à une chose, c'est retourner à la campagne, retourner là où ça respire un peu, comme si c'était ça la vraie vie. Comme si se retrouver à la campagne, à proximité de la terre, revenir aux vraies choses, toucher la terre plutôt que le béton, ça allait apaiser, ça allait donner du sens. Et j'aimerais dire, tant mieux pour cette prise de conscience. C'est bien de tourner, de toucher la terre. Moi, j'aime bien creuser la terre, planter des arbres. Partout où on est allé habiter, j'ai planté des arbres. J'aime bien le rapport à la terre. J'aime ça. Et quelque chose de réconfortant, d'une connexion avec la création divine. J'aime ça. C'est bien de ce constat-là. C'est plus que... La vie, c'est plus que métro, boulot, dodo, que nos familles ont besoin de s'aérer, de temps et de vivre des temps de qualité au calme, à la campagne, c'est bien. Et en même temps, j'aimerais dire que rien, mes amis, ni la campagne, ni l'argent, ni les loisirs, ni les voyages, ni la fête, ni l'alcool, ni le travail, ni le prestige d'un poste à haute responsabilité, ni rien dans ce monde ne pourra nous combler notre état intérieur véritablement. Ces gens-là, ils sont partis à la campagne, mais leur vie d'intérieur était toujours là, ils l'ont emmené avec eux à la campagne. Rien de tout ça pourra nous donner une joie véritable, profonde, complète, nous combler pleinement, un contentement qui comble pleinement chacune de nos vies. Rien dans tout ça, mes amis, nos familles au plus profond. Pourquoi ? Parce qu'on cherche au mauvais endroit. Il n'est pas ici. Il n'est pas ici, leur dira l'ange à ces femmes ce jour-là, mais il est ressuscité. Il n'est pas là, il est ressuscité. Nous avons besoin de rediriger notre regard. Tu vois ce que je veux dire ? C'est ça que l'ange a fait. Il a pris la tête de ses femmes, puis en gros, symboliquement, c'est ça qu'il a fait. Tu regardes là, c'est pas là, c'est là, regarde. Tu vois ce que je veux dire ? Regarde au bon endroit. Enlève tes yeux de ce qui ne porte pas la vie. Enlève tes yeux de ce qui ne porte pas la vie et pose-les sur Jésus le ressuscité. Pose-les sur Jésus le ressuscité et qui est vivant pour toujours. C'est exactement ce que l'ange va dire à ces femmes. C'est ça qu'il va leur dire. Et c'est la deuxième catégorie de personnes. C'est la deuxième catégorie de personnes dont j'aimerais parler. Que ces textes nous appellent à être chacun d'entre nous, aujourd'hui encore. Ceux qui choisissent de porter leur regard, de fixer leur regard sur celui qui est vivant. Sur celui qui est vivant, au milieu de la tempête, mes amis, au milieu de notre vécu, au milieu de cette inflation qui va peut-être continuer à augmenter, Au milieu de la situation de ce monde qui va peut-être continuer à se compliquer. Au milieu peut-être d'une situation familiale où tes enfants vont peut-être continuer à marcher pour un temps encore loin de Dieu. Au milieu d'une situation qui peut-être ne va pas se régler comme ça forcément tout de suite, mes amis. Mais de porter nos regards, de fixer nos yeux sur Jésus. C'est lui notre espoir. C'est lui notre seul espoir sûr et solide, ce rocher sur lequel on peut s'appuyer avec une pleine confiance. Il est le Dieu de l'impossible. Il est le Dieu de l'impossible, le Dieu des miracles, il n'a pas changé. Il est encore là pour ta situation, pour ton couple, pour tes finances, pour ton travail, pour tes études, pour ta santé, pour chaque domaine de nos vies, mes amis. Souvenez-vous, va dire l'ange à ces femmes. Souvenez-vous. Elles étaient dans la peur, elles étaient dans le désarroi, et c'est ça qui va leur dire. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé. Rappelle-toi. Souvenez-vous, et alors elles se ressouvinrent des paroles de Jésus. Alléluia. C'est bien, je l'ai bien dit cette fois. Je l'ai eu. Souvenez-vous, regardez, fixe ton regard sur Jésus. Fixe ton regard sur Jésus. Regarde ce que Jésus vous a dit. À ce qu'il vous a enseigné, ce qu'il vous a annoncé. Pose tes yeux sur ce que Dieu a fait dans ta vie, sur ce qu'il t'a déjà dit. Souvent, je rappelle ça quand on est des entretiens avec Nicole et qu'on peut se retrouver parfois face à des frères et sœurs, des chrétiens qui sont un peu confus, qui sont dans des périodes un peu chamboulées puis qui ne savent plus où donner de la tête, quelle décision prendre. Souvent, je leur dis ceci. Arrête-toi quelques instants. Et maintenant, on va juste, rappelle-toi, on va prendre une feuille, rappelle-toi, pause. Qu'est-ce que Jésus t'a dit dans le passé? Il a souvent... C'est la boussole qui te redonne le nord. Ah oui, c'est vrai, il m'avait dit ça. Ah oui, il m'avait dit ça. Puis là, on pose comment on sait les choses. Puis à la fin, la feuille est remplie. Je dis, bon, l'entretien est terminé, mon frère, ma soeur. Voilà. C'est pas moi qui va te dire quoi faire. Jamais de la vie. C'est pas moi qui va te dire quoi faire. Des fois, ils ont le regard sur nous. Pasteur, dis-moi quoi faire. Je ne sais pas. Je dis, qu'est-ce que j'en sais? Qu'est-ce que tu devrais faire, moi? J'ai de la peine à comprendre qu'est-ce que moi je dois faire. Rappelle-toi ce que Dieu a dit. Qu'est-ce qu'il a déjà dit dans ta vie? Qu'est-ce qu'il a déjà dit? Souvenez-vous. Pose tes yeux sur ce que Dieu a fait dans ta vie, sur ce qu'il t'a déjà dit. C'est exactement ce que Jésus a fait sur le chemin d'Emmaüs avec ses deux disciples. Les deux disciples sur le chemin d'Emmaüs, ils étaient confus. Ils s'en allaient, ils s'éloignaient de Jérusalem. La persécution avait commencé à prendre place après la mort de Jésus. Ils se lamentaient, dans le même état d'esprit que les femmes. Ils partaient. Et lorsque Jésus apparaît avec eux sur le chemin, qu'est-ce qu'il fait? Rappelez-vous, il leur rappelle. Et la Bible nous dit qu'il va reprendre depuis Moïse, à travers les prophètes. Et il leur rappelle, et il leur explique ce qui avait été dit à propos de lui, ce que les prophètes avaient déjà annoncé. Il marche sur le chemin, il leur rappelle. Souvenez-vous, les amis, c'est ça qu'il fait. Jésus nous rappelle ce qu'il a fait dans nos vies. Et quand on fixe nos regards sur cela, sur lui, sur ce qu'il a déjà fait dans nos vies, tout à coup, les problèmes, le combat que je suis en train de vivre, l'épreuve que je suis en train de traverser, il me dit, rappelle-toi toutes les épreuves que tu as déjà traversées. Regarde, rappelle-toi comment il t'en est sorti. Rappelle-toi comment il t'a porté, rappelle-toi comment il t'a consolé, rappelle-toi comment déjà. Et là, tout à coup, ça remet la boussole, le nord, c'est vrai. Il l'a fait, il le fera encore, alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un ici ce matin, il l'a fait, il le fera encore dans ta vie, alléluia. Quelqu'un dit amen, alléluia. Il l'a fait, il le fera encore. Il l'a fait, il le fera encore dans ta vie. Et c'est ce que Jésus dit à ses disciples sur le chemin d'Emmaüs. Il leur rappelle, souvenez-vous les prophètes, ce qu'ils avaient annoncé. Et tout à coup, alors qu'ils sont là à table, qu'ils rompent le pain, leurs yeux s'ouvrent. Et ce qu'ils n'étaient pas capables de voir avant parce qu'ils avaient les yeux au mauvais endroit, Jésus tranquillement leur explique les choses, les raligne avec sa parole, les raligne sur Dieu pleinement. Et bam, leurs yeux s'ouvrent. Là, tout à coup, ce qu'ils ne voyaient plus avant parce qu'ils regardent maintenant dans la bonne direction, ils le voient maintenant. Ça y est, c'est bon, un déclic, qu'est-ce qui se passe? Complètement chamboulé, eux qui partaient là, ils font une conversion. Conversion, clac. Une conversion. Ils partaient là. Leurs yeux s'ouvrent, Jésus redirige leur regard, ça change tout. Ils étaient en train de fuir la persécution, ils avaient peur, ils étaient lamentés. Ils sont en train de se lamenter. Jésus refixe leur regard au bon endroit. Ils repartent à Jérusalem. Mais peut-être qu'ils allaient être... On ne sait pas la suite de l'histoire. Peut-être qu'ils ont fait partie des martyrs. Peut-être qu'ils ont fait partie de ceux qui se sont fait lapider. Peut-être on ne sait pas la suite de l'histoire. Mais il y a quelque chose à l'intérieur de Dieu qui a changé. Peu importe ce qui va se passer, je vais marcher avec Dieu. Peu importe ce qui va se passer, je vais aller briller à Jérusalem. Je vais aller représenter mon Jésus. Là où je me trouve en ce moment, même si ce n'est pas facile, là où tu te trouves en ce moment, tu vas briller de Jésus. Si tu as les yeux au bon endroit, tu vas briller de Jésus, tu vas voir Dieu à l'œuvre à travers ta vie. Alléluia. Alléluia, c'est bon, hein? La parole de Dieu est extraordinaire. Elles se ressouvinrent des paroles de Jésus. Voilà le déclic. Voilà le déclic. C'est lorsqu'on fixe nos regards sur Jésus et non plus sur nos limitations, nos circonstances, nos impossibilités, toutes ces choses qui ne portent pas la vie en elles-mêmes, que nos yeux s'ouvrent alors, que l'espoir peut se mettre à renaître, que tout change, que Jésus peut alors se révéler à nouveau à nous, que le miraculeux peut reprendre place, que nous donnons à nouveau à Dieu, parce que nous donnons à nouveau à Dieu la possibilité d'agir quand on fixe nos regards au bon endroit. Alléluia. C'est alors que les femmes passent d'un état de tristesse, comme ça, un état de tristesse, à un état d'espérance, à un état de joie avec une force renouvelée. Ce n'est pas le moment d'être dans la joie. Il n'y a rien qui montrait qu'il pouvait être dans la joie. Mais elles ont de la joie renouvelée. Elles accourent pour annoncer ça aux disciples. Ils ne vont même pas les croire. Ils vont dire « vous êtes des rêveuses ». T'as rêvé n'importe quoi, des rêveuses. Parce qu'eux, ils avaient encore les yeux fixés sur ce qui ne porte pas la vie, sur ce qui est mort. Ils regardaient encore la mort, il est mort. Ils regardaient encore ça et ça produisait rien. C'est pour ça qu'on se met à dire des paroles quand on a les yeux fixés comme ça, c'est notre vieille nature. On se met à dire des paroles qui dépassent notre pensée, qui blessent les autres. Ils se mettent à les traiter de rêveuses. Tu penses que ça leur faisait plaisir aux femmes? Elles viennent de rencontrer un ange. Qu'est-ce que j'ai rêvé n'importe quoi? On a rencontré un être divin qui est venu nous parler, qui nous a dit la vérité à propos de Jésus. Ça a chamboulé tout. J'ai plus le même regard. Vous rêvez. Ça, c'est quand on a les yeux fixés au mauvais endroit qu'on vit ces choses-là. Et ça divise. J'aimerais dire à chacun d'entre nous ce matin, Jésus n'est pas resté dans la mort. Il est ressuscité. Alléluia. Et il est vivant pour l'éternité, il est assis à la droite du Père, il règne, mes amis. Et il est vivant en nous par son Esprit, le voile est déchiré. Nous sommes le temple du Saint-Esprit, il habite en nous. Il est le Consolateur, il sera avec nous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Ne négligeons pas ce grand salut. Ne négligeons plus si longtemps de ce grand salut. Mes amis, regarde à Jésus. C'est la seule chose véritable, véritablement solide en ce moment. Soyons une église, des églises, qui regardent à Jésus pour tout. Pour les temps compliqués qui sont devant nous, lorsqu'il y a des décisions importantes à prendre. Fixons Jésus. Marchons. Marchons sur les chemins. Marchons sur l'eau. Si tu gardes les yeux fixés sur Jésus, tu traverseras tout. La montagne, la vallée, l'eau, les étendues désertiques, tu traverseras si tu gardes les yeux fixés sur Jésus. Alléluia. Lui, c'est le bon chemin sur lequel il nous emmène. Il est le chemin. Il est le chemin. C'est lui le chemin. C'est lui le chemin. Alléluia. Alors, commence à te souvenir. Commence à te rappeler. À te souvenir de ce qu'il a fait pour toi, de ses promesses qu'il t'a faites, de ses bénédictions qu'il a posées sur ta vie. Rappelle-toi quelques instants de ce jour où il t'a touché, de ce bien-être lorsque tu étais tout près de lui, de ce repos lorsque tu passais du temps dans sa présence, si bienfaisant, si primordial, de cette paix surnaturelle lorsque tu as choisi de lui faire confiance et qu'il est venu à ton secours. Fixe les yeux sur Jésus, fais-le encore. Regarde à celui qui est vivant, au siècle des siècles. Alléluia. Apocalypse chapitre 1, verset 12. Jean, dans cette vision, alors qu'il est sur l'île de Patmos, qu'il a cette magnifique vision de ce qui va prendre place, de ce qui prend place, de ce qui va prendre place là-haut, il dira ceci, je me retournais. pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, Jésus, vêtu d'une longue robe, ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise, et sa voix était comme le bruit des grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Et je le vis, quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Et il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point, je suis le premier et le dernier. Je suis vivant. Alléluia. J'étais mort. Et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Mes amis, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Ne regardons pas à ce qui est mort, mais regardons à celui qui est vivant. Il est vivant, il était mort, c'est vrai, il est passé par la mort, mais il est ressuscité, voici je suis vivant au siècle des siècles. C'est notre Dieu, notre Jésus, il règne, mes amis. Ça vaut le coup, que dans ce qui nous reste de notre passage ici-bas sur cette terre, ça vaut tellement le coup de regarder à lui, mes amis. Ça vaut plus que le coup, c'est notre tout, c'est notre seul espoir, mes amis. Alléluia, c'est le seul espoir pour cette Suisse, c'est le seul espoir pour ta vie, c'est le seul espoir pour nos enfants, c'est le seul espoir pour nos villes et nos villages, c'est le seul espoir pour ces vallées valaisannes, c'est le seul espoir, c'est Jésus, mes amis, alléluia.
Est-ce qu'on peut simplement incliner la tête, mes amis? Je vais prier en terminant, et puis on va prendre un temps de Sainte-Cène qu'on a voulu avec Philippe, comme une réponse à cela, ce matin, comme une réponse pour dire au Seigneur, Seigneur, on a compris le message, week-end, là, tout est à propos de Jésus. Et ce matin, Seigneur, pourquoi cherchez-vous parmi les morts ceux qui sont vivants, Seigneur? C'est terminé de regarder à ce qui est mort, Seigneur. Viens me transformer. Trop souvent, je regarde encore. J'ai trop souvent, ces derniers temps, j'ai encore regardé à ce qui ne portait pas la vie. Seigneur, ça suffit. Je regarde à toi maintenant. Seigneur, il y a des inconnus encore. Je sors de ce week-end, il y a des choses, je n'ai pas encore les réponses. Mais je choisis de regarder à toi. Je choisis de regarder à toi. La tempête est peut-être encore là, mais je vais marcher sur l'eau à ta suite, caché en toi, les yeux fixés sur toi. Tu es le seul, l'unique, Seigneur. Ça change tout, ça changera tout dans ta vie, mon frère, ma sœur. Alors qu'on va prendre cette sainte scène, c'est cette décision qu'on va prendre nous ensemble, en se rappelant de ce que Jésus a fait à la croix, de ce sacrifice que je ne veux pas, que je ne veux plus. Négligé, peut-être comme j'ai pu le faire en regardant trop souvent encore à ce qui était mort dans le passé. Maintenant, je prends cette sainte scène et je regarde à celui qui est vivant. En prenant cette sainte scène, on proclame qu'il est mort, qu'il a souffert, que son sang a coulé pour nous laver, mais on proclame aussi qu'il est vivant. C'est ça qu'il nous a dit. À chaque fois que vous prenez cette sainte scène, vous rappelez mes souffrances, mais vous rappelez aussi que je reviens. Donc si on rappelle qu'il revient, c'est qu'il est vivant. Alléluia.